FI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, alors que le virus de la Covid-19 circule toujours à un rythme élevé et que chaque jour les médias nous annoncent les villes qui se reconfinent ou les frontières qui se ferment, il n'y a jamais eu autant de rapports scientifiques qui décryptent froidement le lien entre dégradation de la biodiversité et accroissement des maladies infectieuses. Mais il n'y a rien de neuf, hurlent les chercheurs qui travaillent sur ces sujets depuis des années. On le savait, on a prévenu, mais personne ne nous a écoutés. Si seulement. Et les Nations Unies qui organisent un sommet sur la biodiversité 15 jours à peine après la publication de leur rapport sur les perspectives mondiales. Un rapport qui conclut que aucun des objectifs que les humains s'étaient fixés en 2010 pour freiner la disparition vertigineuse du vivant n'ont été atteints. Aucun. 68% des vertébrés ont disparu depuis 1970, ce n'est sans doute pas assez. Avouez qu'il y a de quoi s'inquiéter, voire s'énerver, et c'est exactement l'état d'esprit de notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport ?
Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire.
Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent.
Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Depuis hier soir, on compte 32 cas.
Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres.
Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute.
Un extrait du film Contagion de Steven Soderbergh, réalisé en 2011. Bonjour Pascal Boirot.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du laboratoire animal de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Tout à fait.
Votre laboratoire a quand même été créé en 1901. C'est le premier laboratoire qui a été créé dans le monde pour lutter contre les maladies infectieuses et contagieuses animales.
Oui, une contingence de temps a favorisé à ce que ce laboratoire fut créé en 1901 pour lutter contre une maladie infectieuse du troupeau redoutable qui était à l'époque la fièvre aphteuse. Ce n'était pas la peste porcine africaine comme vous allez parler dans quelques minutes, mais c'était la fièvre aphteuse qui sévit toujours au niveau du monde entier et qui est toujours un des grands fléaux économiques de l'élevage au niveau mondial.
Alors, vous faites partie des scientifiques qui alertent sur le risque que représentent ces maladies infectieuses depuis quoi, une trentaine d'années. Est-ce que la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui était prévisible ?
Ce qui est prévisible, c'est que nous vivons dans un monde entouré d'agents pathogènes qui évoluent en permanence. Ça, nous le savons. Ce que l'on a parfois oublié, et je prendrai un exemple peut-être dans le domaine de l'infectiologie animale, à la fin des années 90, était considéré en Europe que les grandes maladies animales infectieuses étaient maîtrisées grâce aux prophylaxies, grâce à la gestion qui avait été mise en place. Et en fait, le début des années 2000 a montré le contraire. Effectivement, la fièvre aphteuse pouvait revenir en Europe, elle est revenue deux fois en Europe au Royaume-Uni, qu'il pouvait y avoir des nouvelles maladies qui étaient tropicales jusqu'alors, comme la maladie de la langue bleue du mouton, qui a traversé l'Europe en quelques années, à partir de 2006-2007, qu'il pouvait y avoir également de nouveaux virus, comme ce virus Schmallenberg. Donc, je dirais, dans le monde animal, nous voyons qu'il y a, et puis je pourrais vous en citer bien sûr beaucoup d'autres maladies de cette nature.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle des épizooties, voilà. C'est-à-dire des maladies qui sont transmises d'animaux à animaux.
Voilà, on reste dans le corpus animal sans toucher l'homme, sans toucher ces maladies que l'on appelle zoonotiques, c'est-à-dire où il y a un échange direct entre l'animal et l'homme. Il y a eu beaucoup d'échanges lors de la domestication des animaux, notamment des bovins ou des jusqu'aux camélidés, les plus récents domestiqués. Donc il y a eu beaucoup d'échanges lors de cette période-là. Un exemple typique, c'est la peste bovine qui est passée à l'homme sous forme de rougeole, par exemple, donc qui s'est adaptée à l'homme, mais qui ne revient pas à l'animal.
Et du coup, quelle est la part de l'humanité aujourd'hui qui décède de maladies infectieuses ?
La mortalité au niveau mondial, selon l'OMS, est de l'ordre de 25% liée aux maladies infectieuses. Alors bien sûr, elle ne touche pas de façon équilibrée tous les pays au niveau de ce volume de mortalité lié aux maladies infectieuses. Et l'on voit qu'évidemment, il y a des pays qui vont payer un lourd tribut. Je prends un exemple, la mortalité par diarrhée pour les moins de 15 ans dans les 10 pays qui sont en guerre ou en trouble conséquent, Syrie, Afghanistan, Centrafrique, est de l'ordre de 150 000 enfants chaque année qui meurent de maladies infectieuses liées à une absence d'eau potable.
Donc on va dire en gros les maladies infectieuses jusque-là, c'était surtout dans les pays pauvres.
C'était essentiellement dans des pays où l'accès à l'eau n'était pas aussi facile, où il y avait des vecteurs aussi de maladies infectieuses.
Donc on pense aux moustiques par exemple. Voilà. Et donc vous souriez parce qu'on a préparé cette émission évidemment, et vous m'aviez dit en préparant cette émission, moi j'ai fait ma thèse en 92 sur une zoonose et on m'a dit bon c'est sympa, maintenant vous allez passer à autre chose parce que bon il y a quand même des sujets un peu plus importants. Et alors aujourd'hui par contre voilà, tout d'un coup ça explose. Alors est-ce que vous diriez que les zoonoses et les épizooties sont en augmentation dans le monde ?
Alors augmentation, c'est visiblement oui. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce que c'est une maladie ? Il faut d'abord voir ce qu'est une maladie. En fait, une maladie, c'est d'abord lié infectieuse. Je parle uniquement des maladies infectieuses, je ne parle pas des maladies chroniques. La maladie infectieuse est liée à un agent pathogène. Il y a une cause, l'agent pathogène. Mais derrière, il y a un moteur. Et ce moteur, pour les maladies humaines ou animales, c'est la sensibilité de l'animal ou l'activité humaine. Et l'activité humaine, objectivement, effectivement, favorise de façon considérable la diffusion, la propagation, l'amplification de cet agent pathogène. Et on arrive à un système infectieux avec un moteur très visible dès lors qu'il n'y a plus de moyens de lutte et de prévention contre cet agent infectieux. Donc, beaucoup de maladies bactériennes ou la grippe saisonnière font l'objet de beaucoup de cas, mais il y a un vaccin ou il y a un antibiotique pour beaucoup d'infections bactériennes que l'on subit chaque année. Donc, émergent des résistances dès lors que l'on n'utilise pas l'antibiotique de façon raisonnée.
Mais cela dit, il y en a quand même de plus en plus. Vous me dites depuis un siècle, ça monte.
Globalement, effectivement, sur une période de 20 ans, il y a beaucoup plus d'émergence et de réémergence. Au niveau santé animale, on l'a observé.
Alors la preuve, par exemple, avec ce qui se passe depuis quelques semaines en Allemagne. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes le correspondant de RFI à Berlin. Alors cette fois, c'est la peste porcine qui menace les producteurs allemands. Depuis la découverte d'un cadavre de sanglier mort de cette maladie, les agriculteurs dans la région concernée tremblent pour leur avenir. Plus largement, c'est toute la filière allemande qui est frappée. Alors Pascal, où en est-on tout d'abord aujourd'hui et quelles mesures ont été prises sur le terrain pour lutter contre une possible épidémie ?
Alors c'est effectivement le 10 septembre, il y a 3 semaines à peu près qu'une première carcasse de sanglier qui a été victime donc, de cette fièvre porcine a été retrouvée dans la région du Brandebourg qui entoure Berlin, près de la frontière polonaise. Depuis, il y a une trentaine de cadavres de sangliers concernés qui ont été retrouvés. Alors pour essayer d'endiguer les problèmes, on a mis en place des barrières électriques assez rapidement, mais pas partout, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Certains ont critiqué ces barrières qui ne seraient pas suffisamment hautes, suffisamment résistantes. On essaye en fait de protéger l'accès non seulement de la région, mais aussi du reste de l'Allemagne. C'est aussi évidemment l'enjeu des mesures qui ont été prises. Des battues sont organisées pour retrouver d'autres cadavres de sangliers. Car il faut le savoir, si dans le Brandebourg, il y a des exploitations avec quelques milliers de porcs, en revanche, plus à l'ouest, en Basse-Saxe notamment, où il y a des grandes structures très intensives, très industrielles, il y a des millions de porcs. Et effectivement, si la maladie arrivait jusque-là, ce serait évidemment une catastrophe, puisque si un animal est déclaré contagieux dans une exploitation, ce sont tous les animaux qui doivent être ensuite abattus.
Tiens, ça me fait penser à quelque chose. On n'est pas abattu, mais chacun doit s'isoler dès qu'un cas est déclaré. Alors, quels sont les risques pour les producteurs des régions frontalières concernées, Pascal ?
Alors pour l'instant, encore toujours avant tout dans le Brandebourg, il y a des zones qui ont été déclarées particulièrement concernées, avec des périmètres donnés au sein desquels, eh bien, la vie pour les exploitations agricoles et pour les agriculteurs est devenue très compliquée. Ils ne peuvent parfois pas accéder à leurs terres agricoles pour, par exemple, faire les récoltes de maïs dont ils auront besoin, ou même plus tard, si ça continue, faire des semences pour la saison 2021. Ils ont essayé, lorsque les animaux, les porcs étaient à l'extérieur, de les mettre évidemment à l'abri le plus vite possible à l'intérieur pour éviter toute contagion. L'accès à certaines exploitations est compliqué et on voit, en raison des risques, que même l'accès aux abattoirs est contrôlé avec des désinfections pour les véhicules qui apportent les animaux ou qui ensuite transportent la viande.
Alors, mais au-delà, c'est l'ensemble du marché de la viande de porc en Allemagne qui est frappé.
Oui, effectivement, puisque l'Allemagne est le premier exportateur de viande porcine en Europe. L'Allemagne exporte près de la moitié, 45% de sa production, avec une importance stratégique du marché chinois. Et il y a eu déjà des réactions de différents pays concernés qui importent de la viande de porc allemande, qui ont décidé de suspendre les exportations, à commencer par la Chine dont je parlais à l'instant, mais aussi le Japon, la Corée du Sud pour rester en Asie, ainsi que le Brésil et l'Argentine en Amérique du Sud. C'est évidemment des mesures qui sont très négatives pour la filière en Allemagne, où le prix de la viande a baissé. La viande de porc allemande peut encore être exportée dans d'autres pays européens si elle ne vient pas de la région ou des régions où des cas de peste porcine ont été diagnostiqués. Et en début de semaine, l'organisation Culture Viande en France s'alarmait un peu de la possible arrivée de viande porcine plus nombreuses sur le marché français. D'un autre côté, si les Allemands vendent moins, notamment en Chine, le marché le plus important à l'exportation, ça peut signifier d'un autre côté que des producteurs d'autres pays pourraient avoir de nouveaux débouchés.
Merci beaucoup Pascal Thibault pour toutes ces précisions. Pascal Boireau, les éleveurs belges et français s'inquiètent aussi. Est-ce qu'il y a un risque de contagion réel ?
Alors, le risque est toujours possible par le transport, tel que cela a été mentionné. Alors, c'est pas directement le laboratoire dont je m'occupe qui gère cette pathologie. C'est le laboratoire de ANSES de Ploufragan-Plouzané, qui est le laboratoire de référence pour cette maladie et qui est en charge de gérer cette grande peste animale. Alors, juste pour indiquer que l'impact économique aussi concerne ce qu'on appelle le cinquième quartier du porc, qui est relativement peu consommé en Europe et pour lequel il y a relativement peu de débouchés en Europe. Et normalement, ce sont des pays comme l'Asie qui sont les gros consommateurs de ce cinquième quartier. Le cinquième quartier, en fait, c'est les pattes, la tête et les organes. Si on ne les consomme pas, il va falloir les gérer. Donc, c'est un coût pour la filière. C'est-à-dire qu'il y a un coût, effectivement, de baisse du marché, mais aussi, après, un coût de gestion de ce cinquième quartier qui est tout à fait, qui n'est pas négligeable du tout, qui compte à peu près pour 10% du coût du porc. Donc,
alors pour bien comprendre dans quel monde on vit, il y a un an, c'était l'inverse. En fait, la peste porcine africaine frappait les élevages chinois et vietnamiens et c'est le prix du porc en Europe qui avait augmenté. Donc l'histoire se répète dans l'autre sens.
Et dans l'autre sens, ça montre effectivement la globalisation, malheureusement, d'un certain nombre de maladies infectieuses comme celle-là. En Chine, ça a traversé de façon considérable le continent, ça comme une flambée, là aussi, sans qu'il y ait une possibilité dans ce grand pays de bloquer compte tenu des transports, et ces transports animaux qui ont favorisé la dissémination du virus, hein, c'est par contact, c'est pas le vent directement qui va favoriser la contamination, c'est le contact d'animaux contaminés qui vont contaminer d'autres naïfs, ou qui vont révéler la présence du virus par un contact avec un troupeau naïf. D'ailleurs, les Européens ont découvert au siècle dernier cette peste porcine africaine en emmenant en Afrique leur propre porc. Et donc, on a révélé cette maladie parce que le troupeau de phacochères, le troupeau sauvage africain, vivait avec ce virus depuis très longtemps. Et donc, il y avait une sorte d'équilibre. On ne voyait pas des flambées de peste porcine africaine. Et c'est lorsque des élevages de porcs se sont développés par l'importation de porcs européens naïfs que l'on a révélé, effectivement, qu'est apparu les premières grandes épidémies au siècle dernier. Hein, il y a longtemps de cela, déjà.
C'est étonnant, donc, cet adjectif de naïf.
Naïf au sens immunitaire. Désolé, effectivement, ce terme quelque peu, effectivement, ambigu.
Bah écoutez, on enrichit notre vocabulaire. Allez, on fait une pause et on en a bien besoin avec l'Éthiopien Jirma Beyene dans « C'est pas du vent ».
መጀመሪያ አንቺን ሳገኝ ተደስቼ እውነት መስሎኝ ልቤን ሰጠሁሽ ተዝናንቼ ከሴቶቹ lovely tea and chin word to sausage cassette to lovely tea and chin ተዋውቀሽኝ ጠብቀኝ ብለሽ ሳላስበው ተለየሽኝ ካንቺ ወዲያ ሴት አላምንም ለማግኘት አልሞክርም Kanchi wadia seta lamnen le magnetin al mokirin
Éthiopien, Jirma Beyene, dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes en compagnie de Pascal Boirot aujourd'hui, le directeur du laboratoire animal de l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors Pascal Boirot, je vous propose d'écouter une archive sonore. C'est un extrait de l'émission au titre bien choisi pour l'époque, Visa pour l'avenir. Son titre, le 15 juin 1962, Alerte à l'homme.
Bonsoir à tous. L'émission que nous vous proposons ce soir n'est pas à proprement parler une émission rose. Elle aborde un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas l'habitude de traiter parce qu'ils sont gênants ou irritants. C'est très exactement le sens qu'il faut donner au titre de cette émission, Alerte à l'homme.
L'homme, le voici sur son territoire. Car comme toutes les espèces vivant sur la Terre, l'homme a un territoire, c'est-à-dire une surface aménagée en fonction des besoins d'un individu ou d'une colonie. Mais l'homme a ceci de particulier qu'il dispose à la fois d'un territoire individuel précis comme le lion ou le rhinocéros et d'un territoire collectif comme les fourmis ou les termites. Son territoire individuel, c'est sa maison, son foyer. Son territoire collectif, c'est la Terre, la planète. Car d'emblée, l'homme du XXe siècle considère la planète Terre comme sa propriété exclusive. Il ne lui viendrait pas une seconde à l'esprit qu'elle puisse appartenir à une autre espèce que la sienne. Il s'en est rendu maître.
Je vous rappelle la date de cette archive, Pascal Boirot, le 15 juin 1962, qui traite donc de problèmes gênants et irritants qui, aujourd'hui, finalement, nous explosent à la figure.
Oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, poser l'homme dans sa globalité au niveau de l'humanité comme espèce animale pouvant conquérir tous les climats, c'est vrai. Mais il n'y a pas que lui. Donc, et c'est là qu'il faut être beaucoup plus, peut-être, optimiste en même temps. C'est que si je vais dans le monde des parasites, eh bien, en fait, on a des parasites tout à fait passionnants, d'ailleurs, sur lesquels on travaille, qui occupent toute la surface du globe. Un des premiers qui est peut-être assez bien connu, c'est le parasite Toxoplasma, qui donne la toxoplasmose humaine. Un parasite qui occupe toute la surface du globe. Il y en a d'autres, il y a un petit ver qui s'occupe, Trichinella, qui également occupe tout le domaine de la Terre, des zones congelées jusqu'aux zones tropicales, et qui, grâce à sa diversité génétique d'ailleurs, peut s'adapter à des conditions extrêmes, ce qui est tout à fait remarquable. Donc on a d'autres espèces animales, tout compte fait, et puis les parasites sont des animaux qui occupent également de façon globale.
Mais c'est vrai que l'humanité s'est quand même bien répandue hein, dans son histoire sur cette petite planète. Et aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, pour ces maladies infectieuses comme la zoonose, comme la Covid-19 qu'on vit aujourd'hui, il y a d'un côté les agents pathogènes qui, eux, existent depuis très très longtemps. Et puis, il faut un moteur, il faut une soufflerie, il faut quelque chose qui amplifie le phénomène. À Wuhan, en Chine, il n'y avait pas d'aéroport avant 2008, par exemple.
Non, il n'y avait pas d'aéroport international.
Voilà.
Donc, probablement que l'épidémie n'aurait pas eu lieu à cette ampleur en l'absence d'aéroports internationaux. D'ailleurs, il y a eu d'autres émergences de coronavirus en Chine avant 2008. Au-delà du SARS-CoV-1 qu'on connaît bien, malheureusement, il y a eu d'autres coronavirus qui ont été identifiés à Hong Kong. Il y en a eu deux autres de mémoire. Et donc, il y a eu d'autres petites émergences de coronavirus pendant cette période 2001-2008. Enfin, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas cette grande émergence, en dehors de celle qui est sévie en Arabie Saoudite, l'autre coronavirus qui est limité à cette péninsule arabique qui est le MERS, donc qui est un autre coronavirus.
Et qui, lui, est resté là-bas.
Et qui, lui, reste là-bas. Il touche également principalement les personnes âgées, avec une mortalité très forte hein, chez les personnes âgées, beaucoup plus forte que la Covid-19. Mais effectivement, il n'a pas eu cette capacité à utiliser les moyens de l'homme de voyage. Chose qu'utilisent souvent beaucoup de maladies infectieuses. Hein. Il est clair que ces virus ne volent pas, ils utilisent les moyens de transport. Par contre, l'autre qui a touché l'Europe quelques années avant, la maladie de la langue bleue, lui a fallu 2 ans pour utiliser les moyens de transport humains pour être véhiculé à travers toute l'Europe. Il a été beaucoup plus lent. Donc, effectivement, il y a une capacité aussi de ces virus, tout compte fait, à utiliser le moteur de l'activité humaine plus ou moins bien.
En fait, plus ils aiment prendre l'avion, pire c'est pour l'humanité.
C'est, évidemment, c'est là où c'est, effectivement, ça pose problème. Mmh. Voilà, c'est là où ça pose problème.
Et dans les effets en cascade qui amplifient la diffusion et l'éclosion, j'ai envie de dire, de ces maladies infectieuses, qu'est-ce que vous mettriez d'autre ? Est-ce qu'il y a la déforestation ? Est-ce qu'il y a le développement de l'agriculture ? L'étalement urbain ? Est-ce que tout ça, ça participe ?
Les effets cascades participent d'une façon ou d'une autre, effectivement, à un petit peu comme ce qui était cité tout à l'heure, à un moment, on a un effet bascule. Et là, on ne va pas maîtriser, surtout si on n'a pas de moyens de maîtriser, hein, si on n'a pas les systèmes de prévention ou les systèmes de thérapie, à ce moment, effectivement, le virus va s'en donner, ou la bactérie, voire le parasite, va s'en donner complètement et va conquérir, effectivement, ce nouvel hôte qu'est l'homme. Mais d'où vient-il ? Voilà, il y a une question. Je vous ai cité ce virus des ruminants. On ne sait pas aujourd'hui d'où vient exactement ce virus des ruminants. Donc il y a des émergences, ça arrive par des contacts, effectivement, entre un réservoir que l'on ne connaît pas formellement. Pour le cas du SARS-CoV-2, on ne connaît pas formellement le réservoir, on ne sait pas quel est le réservoir animal contact.
Oui, on hésite entre le pangolin et la chauve-souris,
pour
toujours.
Le pangolin, aujourd'hui, c'est compte tenu de l'analyse génomique, c'est pas du tout lié au pangolin directement, donc il y a autre chose. Donc,
on a innocenté le pangolin.
Autant la chauve-souris est bien un réservoir primaire de façon avérée, autant le pangolin, lui, est complètement éloigné d'une contamination directe pour l'homme aujourd'hui, compte tenu de la nature des coronavirus qui sont isolés chez le pangolin. Mais là aussi, c'est quelques animaux qui ont été analysés, hein, donc c'est pas l'ensemble des pangolins, bien sûr, de la Terre qui ont été analysés, loin s'en faut. Donc ça pourrait être éventuellement, mais en tout cas, c'est pas les pangolins qu'on a analysés qui sont la cause.
Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des enquêtes en Chine ? Est-ce qu'on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé ?
Il y en a, et certains collègues vont participer, d'ailleurs français vont participer à des enquêtes à l'heure actuelle en Chine, oui.
Et pas très loin de Wuhan, il y a le barrage des Trois Gorges.
Oui.
1,5 million de personnes déplacées, dont des élevages. Est-ce que on peut se dire que quand on modifie comme ça les écosystèmes avec une telle violence, peut y avoir des effets boomerang ou je strapole là ?
Alors, les effets boomerang ont été bien décrits pour un virus qui s'appelle le virus Nipah. Alors, effectivement, l'effet boomerang, c'est le phénomène El Niño de réchauffement climatique très loin dans le Pacifique qui va se répercuter jusqu'en Malaisie. En Malaisie, on va faire des feux de forêt pour réduire la forêt tropicale, pour installer des plans de culture, notamment de fruitières, mais pas que, avec
palmier
à huile. Et puis, tant qu'à faire, on va essayer de rentabiliser la terre qui a été défrichée en mettant de l'élevage, notamment des élevages de porcs, que l'on va construire effectivement avec les bambous qu'on a coupés de la forêt. Et le phénomène El Niño a tellement asséché en 98-99 effectivement la forêt tropicale malaise qu'il y a eu des incendies considérables. Et les espèces animales fuient autant que faire se peut. Ceux qui volent ont un avantage. Et donc, effectivement, les chauves-souris frugivores ont la capacité de parcourir quelques centaines de kilomètres et donc de fuir plus aisément ces grands incendies. Et comme elles sont frugivores, elles se rabattent dans un lieu pour s'arrêter, pour manger et se reposer. Et alors, elles ont trouvé un gîte exceptionnel, elles ont trouvé des cabanes en bambou où elles pouvaient s'accrocher la tête en bas, parce que c'était des bambous, les madriers étaient en bambou. Et donc, elles pouvaient s'accrocher, et à côté des bambous, en dessous, il y avait les cochons, mais à côté des bambous, il y avait les arbres fruitiers. Des dattiers, différents arbres fruitiers. Donc, elles avaient le gîte et le couvert suite à l'incendie. Et effectivement, et c'est là qu'un virus malheureux est tombé sur le groin des cochons qu'il y avait en dessous, qui s'appelle le virus Nipah, et qui est à l'origine de quelques centaines de morts. C'est un virus redoutablement mortel pour l'homme, qui est passé, effectivement, chauve-souris, cochon, homme. Il fallait un maillon intermédiaire pour ce virus. Il ne pouvait pas passer directement des chauves-souris frugivores directement à l'homme. Il fallait qu'il passe d'abord par une espèce animale intermédiaire. Il a fallu abattre pratiquement 1 million de cochons pour maîtriser la maladie animale et pour qu'il n'y ait pas de contact à l'homme. Donc elle a été maîtrisée. Mais ceci dit, elle n'est pas complètement maîtrisée dans cette zone géographique. Et par exemple, l'assèchement du Mékong, ou du moins les grandes modifications du Mékong qu'il y a à l'heure actuelle, conduisent à ce que, par exemple, les pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher suffisamment bien se reconvertissent à mettre en place des arbres fruitiers sur les berges. Et donc, on a des zones fruitières qui n'existaient pas du tout auparavant et qui sont le lieu d'attraction, effectivement, de chauves-souris frugivores. Et dans cette région, effectivement, il y a des points chauds d'émergence à nouveau de virus Nipah. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un lien entre ces modifications environnementales lourdes, parce que derrière le Mékong, il y a aussi des barrages qui ont été construits en amont. Je vous laisse voir tous les barrages qu'il y a en amont du Mékong, mais effectivement, qui réduisent considérablement le débit ou le rendent très irrégulier. Et ça influe considérablement sur l'activité humaine vivrière. De quoi vont vivre ces hommes au bas du Mékong? Ils doivent changer, ils vont installer les arbres fruitiers, mais sauf que les arbres fruitiers vont attirer d'autres prédateurs potentiels. Même s'ils ne sont pas des animaux nuisibles et dangereux directement, l'homme a des chiens, l'homme a des animaux domestiques qui peuvent être un intermédiaire.
Et voilà, quand on vous parle d'écosystème, voilà une belle démonstration. Allez, restez avec nous sur RFI, on se retrouve après un moment de détente. On en a bien besoin au milieu de tous ces virus en compagnie de Polyversal Souls. Sale Souls dans C'est pas du vent sur RFI.
Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est l'apocalypse en édition populaire. Le siècle pourrait bien être le dernier de la série.
Mais non, allez, on va essayer d'être optimiste quand même dans cette émission. Nous sommes en compagnie de Pascal Boireau, le directeur du laboratoire animal de l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors Pascal Boireau, ça ne vous a pas échappé, l'ONU a organisé cette semaine un sommet sur la biodiversité. Bonjour Sébastien Treyer.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour Monsieur Boireau.
Vous êtes le directeur de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors ce sommet intervient dans un agenda sur la biodiversité bien bouleversé, hein, Sébastien, parce que 2020 devait être l'année des grands engagements pour la biodiversité. Pour dire brièvement les choses, c'est un peu raté.
Effectivement, c'est raté parce que le Congrès mondial de la nature, qui devait d'abord avoir lieu en juin 2020, reporté à janvier 2021, est encore reporté sans date précise. La conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui devait avoir lieu ce mois d'octobre à Kunming, en Chine, a été reportée à l'année prochaine et on ne sait même pas si elle aura lieu avant l'été. Et d'ailleurs, la conférence des parties sur le climat, hein, la COP26, qui devait avoir lieu à Glasgow en novembre 2020, est aussi reportée à novembre 2021. Donc il y a un grand trou d'air dans l'agenda international et c'est à ce titre-là que pour moi le sommet organisé aux Nations Unies est un moment important pour signaler un peu d'engagement politique de nos pays qui, par ailleurs, sont beaucoup en train de montrer leur divergence plus que leur convergence. Et donc, c'est un signal politique fort. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit le seul, parce qu'on sait bien qu'il ne suffit pas de dire qu'on va se mettre d'accord sur une échelle internationale pour que les choses changent sur le terrain.
Oui, parce que comme je le disais en introduction de cette émission, la 5e édition du rapport des Nations Unies sur les perspectives mondiales de la biodiversité a été publiée il y a une quinzaine de jours. Et ce rapport explique qu'aucun des objectifs que s'était fixé la communauté internationale pour la décennie 2010-2020 en matière de protection des écosystèmes n'ont été atteints. Aucun. Sébastien Treyer, c'est incroyable quand même.
Alors, je ne me sens pas complètement responsable tout seul, Anne-Cécile, mais effectivement, de 2010 à 2020, on avait fixé un certain nombre d'objectifs et aucun d'entre eux n'a été totalement atteint. Un certain nombre sont dans une meilleure voie, hein, comme la question de la proportion de nos territoires et de nos océans qui soient sous conditions d'air protégées, mais c'est quand même largement insuffisant. Moi, ce que je trouve très important dans la période actuelle de crise liée à la pandémie et aussi de crise de tout un tas de sujets, hein, comme notre alimentation, c'est qu'en fait, on a de manière beaucoup plus précise une notion de pourquoi on doit se coordonner à l'échelle internationale pour changer les choses en matière de biodiversité. La question des pandémies, de leur lien avec la dégradation de la biodiversité et d'un certain nombre de risques d'autres pandémies que celles qu'on vit actuellement avec la question des élevages industriels, pour moi, montre qu'on a besoin de traiter cette question-là à l'échelle à laquelle notre système d'élevage industriel, par exemple, se déploie sur la planète avec de l'alimentation qui vient du Brésil pour nourrir des animaux qu'on nourrit en Chine et qui vont être exportés ailleurs. Et donc cet enjeu-là suppose une forme de coordination. Je pourrais dire autre chose sur toutes ces chaînes de valeur alimentaire mondiales qui relient entre nous, entre eux, les différents pays et les grandes puissances économiques. Et si on ne traite pas une forme de régulation de ces échanges, on n'aura pas de protection de la biodiversité. Donc il y a bien besoin de quelque chose d'une échelle mondiale, ce à quoi sert le système multilatéral des Nations Unies. Et donc ce qu'on veut, c'est que suite au moment politique important, assez déclaratif qu'on a vécu cette semaine, il y ait ensuite d'autres éléments où des pays s'engagent sur ce qu'ils vont faire chez eux et où des pays s'engagent sur ce qu'ils vont faire ensemble, concrètement, sur ces sujets.
Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas moi, une commission sanitaire internationale ou quelque chose comme ça? Selon vous, il y a assez d'organisations pour trouver de la place pour parler enfin concrètement de ces questions et essayer de les résoudre surtout?
Alors, sur le terrain de la question sanitaire, qui est en plus exactement le terrain de M. Boireau, moi je ne veux pas aller trop loin, si ce n'est que on a déjà l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale des épizooties, enfin de la santé animale, qui est basée à Paris, qui est assez méconnue, mais qui joue un rôle important en matière de santé vétérinaire, la Convention sur la diversité biologique, qui s'occupe de la santé des écosystèmes, et un concept de One Health, de Planetary Health, c'est-à-dire de santé unitaire à la croisée des santé des écosystèmes, des santé animales, animale et santé humaine, qui ont été poussées, mais qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Et je suis pas sûr qu'une institution supplémentaire soit la solution. En revanche, il y a besoin probablement de mieux faire travailler ensemble ces institutions. Et je pourrais dire la même chose sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la Convention sur la diversité biologique, elle rassemble les ministères de l'environnement de nos différents pays. Ces ministères, on le sait, sont généralement pas ceux qui gagnent tous les arbitrages face au ministère de l'Agriculture. Donc il y a besoin de s'assurer qu'un programme de travail conjoint soit organisé entre la Convention sur la diversité biologique et l'Organisation des Nations Unies sur l'agriculture et l'alimentation, la FAO, ou alors avec l'OMC sur le commerce, pour s'assurer que derrière les engagements que les pays vont prendre pour protéger la biodiversité, on ait bien un levier d'action sur des éléments clés qui en fait font la régulation de nos systèmes économiques et des secteurs qui sont en jeu, la FAO sur l'agriculture, l'OMC sur les chaînes de valeur commerciales, et puis on pourrait dire la même chose sur la santé. Il faut qu'on s'assure d'un programme conjoint de travail. Et moi, je suis pas un fervent partisan de nouvelles institutions censées coordonner les institutions existantes, parce qu'après elles ont leur propre vie et on n'en sort pas. En revanche, on a besoin de comprendre à quel moment, pour l'instant, ces concepts n'ont pas suffisamment fonctionné et qu'est-ce qui va assurer que l'aiguillon politique est suffisant pour que ces organes internationaux travaillent entre eux de manière coordonnée à la résolution et avec l'objectif de notre transition écologique qu'il est absolument indispensable de faire.
Enfin, si c'est pour arriver à l'équivalent d'un accord de Paris sur le climat avec les conséquences que l'on connaît, est-ce qu'on peut être un peu dubitatif ?
Alors moi, je suis pas dubitatif sur l'accord de Paris, mais je pense qu'on aurait besoin de toute une émission pour en traiter.
Ah, mais on va vous réinviter, Sébastien.
Avec grand plaisir. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas de gouvernement de la planète. Et donc, on est obligé d'en passer par des formes de coordination qu'on dirait soft en anglais, qui sont des formes de coordination molle ou douce en français, où on s'appuie essentiellement sur une forme de pression mutuelle entre les pays, de forme de réputation entre eux, voire de réussir à enclencher une idée d'un espèce de sens de l'histoire dans lequel les acteurs économiques commencent à croire aussi que protéger la biodiversité et protéger le climat, c'est indispensable, sinon on n'y arriverait pas. Et je veux dire que sur le climat, hein, pour prendre cet exemple-là qui est très aigu aussi en ce moment, on peut quand même être surpris du fait que la Chine, qui n'aurait pas forcément de raison de s'engager vis-à-vis du reste de la planète, a quand même décidé de sortir du bois et de dire la neutralité carbone, c'est important pour moi et je vais l'atteindre à 2060 et puis le pic de mes émissions, je le ferai plus tôt que 2030, ce que j'avais annoncé précédemment. Donc on a des économies très puissantes qui en ce moment disent qu'elles n'ont rien à prouver au reste de la planète, qui s'engagent quand même dans un mouvement. Et donc cette question de la pression par les pairs et de la convergence des anticipations, qui est un mécanisme très très mou, c'est pas un mécanisme contraignant, ça a quand même une force dans l'absence de gouvernement qu'on a à l'échelle mondiale, qui est donc forcément une gouvernance entre pays où on peut pas jouer, on n'a pas de mécanisme de sanction à l'échelle internationale sur nos sujets environnementaux.
Merci beaucoup Sébastien Tréhier pour ces éclairages. Je rappelle que oui, en effet, la Chine s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2060, mais même si elle construit encore massivement des centrales à charbon. Pascal Boireau, il y a une approche dont parlait Sébastien Tréhier à l'instant, qui est donc l'approche One Health, que l'on peut traduire par une seule santé. C'est une approche sur laquelle vous travaillez et qui peut-être au niveau international, justement, mobiliser plusieurs acteurs de différents types de chapelles scientifiques pour essayer de répondre à ces enjeux de maladies infectieuses et de dégradation de l'environnement.
Oui, en fait, c'est un concept, un monde, une santé, d'atténuation de tensions entre différentes parties. C'est-à-dire qui jusqu'à présent ne travaillaient pas forcément ensemble. Eh bien, ce concept atténue et favorise effectivement le partenariat et de travailler dans la même direction, ou pour sauver la biodiversité, ou pour lutter contre une maladie infectieuse. Alors, effectivement, je m'occupe de la coordination en tant que domaine d'intérêt majeur pour la région Île-de-France de ce domaine pour les maladies infectieuses sur le concept One Health. Effectivement, en partant du principe que ce concept doit favoriser la recherche médicale en utilisant ce concept « un monde, une santé ». Et donc, depuis 4 ans que nous animons ce projet avec différents collègues et un conseil scientifique qui coordonne ce projet au niveau validation du financement des projets soumis, a fait émerger des projets qui touchent véritablement, effectivement, des intérêts directs, à savoir des financements ont eu lieu pour trouver des nouvelles méthodologies de thérapie contre des coronavirus il y a 3 ans, 2 fois. Il y a eu 2 projets financés là-dessus. Il y a des financements sur la lutte contre des maladies pouvant être transmises par voie hydrique, y compris dans la région parisienne, parce qu'il y a également une certaine population de rongeurs qui peuvent véhiculer cette bactérie par voie hydrique. Et il y a des Jeux Olympiques qui se profilent, donc il est bien que nous ayons des bassins avec une maîtrise de ces bassins hydriques également en région parisienne. Donc ça rentre dans des projets de recherche que nous aidons et que nous soutenons.
Et ce type de recherche existe dans le monde entier. Hein. C'est vraiment un concept qui se répand. Alors au-delà, c'est un véritable changement de mentalité en fait, hein, qui doit s'opérer, on va dire, à tous les niveaux de la société. Je vous propose d'écouter les propos du philosophe Baptiste Morisot, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et qui vient de publier « Raviver les braises du vivant, un front commun » dans la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud.
Qui d'entre nous sait vraiment ce que c'est qu'une forêt ? Qui sait ce que sont les dynamiques constitutives d'une forêt ? Qui sait ce que c'est qu'un arbre ? Qui sait comment un arbre vit à la surface de lui-même dans cette couche de cellules qu'on appelle le libère, qui sont constituées de cellules totipotentes ? C'est ça en fait que j'appelle la sensibilité. C'est une culture du vivant et c'est ça qu'on a perdu ou qu'on n'a pas. Et je crois dont on a absolument besoin pour sortir de la déploration un petit peu éberluée induite par les destructions et poser la question des égards ajustés et de comment on ajuste les égards à ce qu'on sait de ces autres formes de vie.
Ça veut dire quoi ajuster les égards ?
C'est un concept qui me travaille beaucoup. Parce que il répond pour moi à une sorte de double urgence. La première urgence, c'est que on appartient à une civilisation qui est très étrange et à mon sens l'une de ses grandes originalités, c'est que c'est la première civilisation à avoir inventé l'idée que nous ne sommes pas tenus à des égards envers le monde qui nous a fait. Je crois que toutes les autres cultures de la Terre ne partagent pas cette idée. Quelles que soient les formes qu'elles prennent, elles estiment qu'elles ont des égards, elles doivent avoir des égards à l'égard de leur environnement donateur, à l'égard des milieux qui a constitué notre espèce et qui nous nourrit et qui nous fait respirer à chaque instant. Nous, on a inventé l'inutilité des égards. On a inventé que c'était superstitieux, que c'était c'est un truc d'écolo, les égards pour les forêts, les milieux, les animaux, les végétaux. C'est quand même assez prodigieux comme affaire. Mais en même temps, je pense que les égards abstraits, les égards en général, par exemple, appliquer une sorte de morale, qui va transposer des catégories humaines directement sur les animaux, c'est pas non plus une solution, parce que le grand enjeu, c'est d'ajuster ces égards à l'étrangeté de ces formes de vie. Les égards qu'on doit aux abeilles, c'est pas les mêmes que ceux qu'on doit aux bactéries de notre intestin, et c'est pas les mêmes que ceux qu'on doit aux animaux de rente, et c'est pas les mêmes que ceux qu'on doit aux forêts. Et la curiosité et l'enquête doivent nous amener à ajuster indéfiniment les égards pour leur faire justice.
Pascal Boireau, comment réagissez-vous à ces propos de Baptiste Morisot ?
Je partage tout à fait, au sens où j'étais très sensibilisé par une exposition sur les arbres qu'il y avait en début d'année. Et il y avait un artiste, Louise Zerbini, qui a décrit effectivement l'action humaine sur la forêt amazonienne et la forêt tropicale en général, et qui a fait beaucoup de tableaux là-dessus. Il n'y a pas dans cette exposition d'ailleurs qui avait lieu à Paris en début janvier. Il y avait d'autres artistes qui peignaient effectivement le lien entre l'activité humaine et l'arbre, qui est source d'inspiration, source d'élevage et de culture, bien sûr, source de réflexion et aussi de philosophie jusqu'à l'aspect cultuel dans beaucoup de civilisations. Donc effectivement, le fait de s'éloigner de l'arbre est quelque chose de pénalisant dans tous les cas pour l'homme. Et à titre anecdotique, à Shanghai, il y avait beaucoup, beaucoup d'arbres au siècle dernier. Et les tours métalliques et pleines de verre ont fait augmenter la température de Shanghai de façon considérable par rapport au temps où il n'y avait que des arbres. Certes, il y a l'effet changement climatique, mais aussi localement, la conjonction architecturale qui n'a pas tenu compte, effectivement, et qui a accru la température moyenne de Shanghai.
Voilà, et on revient à la notion d'écosystème. Tout est lié. Merci beaucoup, Pascal Boireau, d'être venu dans les studios de RFI. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos nombreux messages. Continuez à nous écrire via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférez et partagez nos contenus. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.